J'ai une question bien courte, mais très importante pour vous. Comment est-ce que Dieu veut que l'on prie? Les Saintes Écritures vont nous enseigner à prier d'une manière agréable à Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui, le Seigneur va nous enseigner à prier comme il l'a fait avec ses disciples. Voici les questions qu'on va poser à la parole de Dieu au sujet de la prière. Devons-nous demander à Dieu de nous enseigner à prier? Est-il important de communiquer avec Dieu quand nous prions? Comment pouvons-nous savoir si nous sommes des personnes de prière? Devons-nous réciter le Notre Père? Est-ce que Dieu désire répondre à nos prières? Est-ce possible que Dieu réponde non quand on lui demande quelque chose? Dieu est-il le Père de tous? Faut-il être réformé ou régénéré pour devenir chrétien? Au cours de cette émission, on va apprendre à prier, à communiquer avec Dieu, ce Dieu merveilleux qui désire qu'on lui fasse part de tous nos besoins. Le pasteur Régent Joly a trouvé nos réponses dans la parole de Dieu et il est prêt à nous les communiquer. Mais premièrement, prions. Oh oui, Seigneur, enseigne-nous à prier. On a besoin de marcher de progrès en progrès, même dans la prière. Enseigne-nous ce qui t'est agréable, ce que tu aimes entendre quand on te prie. Donne-nous un cœur qui te prie sincèrement chaque jour. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Mes amis. Aujourd'hui, nous entreprenons l'étude du 11e chapitre de l'Évangile selon Luc. J'aimerais lire immédiatement les 4 premiers versets du chapitre, afin que nous nous plongions immédiatement dans l'atmosphère de celui-ci. Débutons notre lecture. Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Nous sommes rendus à un passage très important, qui traite de la prière et le sujet est approché comme nulle part ailleurs dans les évangiles. Le texte peut paraître semblable à un autre, mais il y a une différence. Certains pensent que ce texte sur la prière est une insertion qui n'est pas tout à fait à sa place dans l'ordre chronologique du ministère de Jésus-Christ. C'est vrai qu'il semble y avoir interruption du mouvement, mais le texte introduit plusieurs implications intéressantes. Les disciples avaient vu et entendu Christ prier. C'est pour cela que ce disciple désirait apprendre à prier. Christ se retirait souvent à l'écart pour prier. Tout cela a suscité chez lui un désir de développer une relation intime avec Dieu dans la prière. Présentement, le Seigneur Jésus est à la droite de Dieu où il intercède pour nous. Nous pouvons toujours lui demander de nous enseigner à prier. « Seigneur, enseigne-moi à prier » est une requête très légitime. Ce disciple ne demandait pas simplement une façon de prier ou une technique pour le faire. Il ne désirait pas apprendre un rituel à suivre. Le Seigneur avait déjà enseigné le sermon sur la montagne qui donnait les grandes lignes de la manière de prier. Ce qu'il désirait, ce n'était pas d'apprendre comment faire, mais de le faire comme le Seigneur Jésus le faisait. De nombreuses personnes ne font que dire des prières. C'est un petit rituel du matin ou de fin de journée. Cela est parfois fait mécaniquement, nous ne faisons que prononcer des mots, mais nous ne communiquons pas avec Dieu. Le disciple a demandé au Seigneur, « Enseigne-nous à prier, comme Jean l'enseignait à ses disciples. » Nous avons ici un dernier coup d'œil sur la vie de Jean-Baptiste, le dernier que nous donne la Bible. Que nous montre ce dernier aperçu? Jean était un homme de prière. Enseigne-nous à prier, comme Jean l'enseignait à ses disciples. Quelqu'un dira-t-il de cela de nous? Tous les grands serviteurs de Dieu ont été des hommes de prière. Si la vie des chrétiens est si terne, et si les églises sont si peu vivantes, c'est parce que les chrétiens ne prient plus, ne communiquent plus avec Dieu. En réponse à la requête du disciple, Jésus leur a donné les paroles de ce que nous appelons le Notre Père aujourd'hui. Mais je ne crois pas que Jésus avait l'intention que ces mots deviennent une prière que l'on récite en public ou en privé. Les paroles de nos prières doivent être des paroles spontanées et personnelles, comme celles d'un enfant qui parle à son père. Dieu me connaît, et je ne pense pas qu'il désire que je lui parle avec un air et une attitude affectée, un ton qui n'est pas naturel et un langage pieux. Je pense qu'il veut que je lui parle comme Régent Joly parle normalement. Je ne pense pas qu'il veuille que j'emploie un style bien particulier. Je crois qu'il veut entendre le cri de mon cœur. Voyez-vous, les prières dans le style de celle apprise par cœur m'agacent, et je ne crois pas qu'elles plaisent davantage à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur, et c'est à ce niveau qu'il veut établir une relation. Examinons les éléments de cette prière. Elle débute par de l'adoration. Que ton nom soit sanctifié. Ensuite, la prière demande que la volonté de Dieu soit faite, que ton règne vienne. Elle implique délaisser le péché pour se tourner vers Dieu. Elle implique que nous désirions que la volonté de Dieu pour notre vie s'accomplisse. Il est inutile de répéter les paroles de cette prière si elles ne correspondent pas au désir profond et sincère de notre cœur. Cette prière fut donnée pour les croyants, non pour les incroyants. La personne qui n'a pas reçu Christ comme sauveur doit premièrement dire cette prière. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Citation de Luc, chapitre 18, verset 13. Mais la prière peut être dite de façon encore plus simple. Dieu est miséricordieux, et il est disposé à te faire miséricorde. Tu n'as pas besoin de quitter Dieu pour son pardon. Si tu viens à lui, il te sauve. La prière enseignée par Christ couvre aussi les besoins matériels. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Ensuite, la prière se termine par une demande de pardon. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Ici, la barre est très élevée. Je doute de l'atteindre, mais j'espère que c'est votre cas à vous aussi. Pardonnez-vous à tous ceux qui vous blessent? Mes amis, Dieu veut que nous nous pardonnions mutuellement. Dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32, déclare « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Puisse Dieu faire de nous des hommes et des femmes de prière. Nous n'avons pas besoin davantage de prédicateurs, d'églises ou de missionnaires, mais nous avons besoin davantage de personnes qui savent prier. Dieu n'en a pas terminé avec le sujet de la prière dans ce chapitre. Seulement, Luc raconte la parabole suivante, et elle fait voir la prière sous un jour différent. C'est une parabole remplie de contrastes. Poursuivons notre lecture de Luc chapitre 11, versets 5 à 8. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Chers amis, quelquefois, pour obtenir quelque chose de notre voisin ou d'une autre personne, il faut insister. Les gens ne sont pas toujours disposés à se déranger pour nous accorder ce que nous désirons. Versets 9 et 10. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Cette parabole fait un contraste avec l'attitude de Dieu. Mes amis, pensez-vous que Dieu dort? Pensez-vous surprendre Dieu au lit et que vous ne pourrez pas le faire lever? Pensez-vous qu'il ne désire pas répondre à vos prières? Dieu désire répondre à vos prières et il le fera. C'est ce qu'enseigne cette parabole. Elle fait contraste avec l'attitude de Dieu. Ce n'est pas une image de la manière dont Dieu répond à la prière. Vous n'avez pas besoin de défoncer les portes du ciel pour attirer l'attention de Dieu. Dieu n'est pas réticent à écouter vos prières et à vous répondre. Nous lisons dans le prophète Ésaïe, chapitre 65, verset 24. « Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. » Certaines personnes pensent que Dieu n'entend ni ne répond à leurs prières. Cependant, peut-être ne comprennent-elles pas que parfois Dieu répond non? Notre problème, c'est que nous trouvons difficile d'accepter les réponses négatives. Dieu entend toujours les prières des siens et il y répond. Mais si nous ne demandons pas ce qui est le mieux pour nous, il répondra non. Avec le temps, nous découvrons que les meilleures réponses que Dieu nous a données furent des noms. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, racontait que lorsqu'il était un jeune prédicateur, il avait posé sa candidature pour un poste de pasteur dans une grande église. Cette église était impliquée dans la politique et le lobbying pour défendre des positions chrétiennes. Après avoir appliqué, le conseil de l'église s'est réuni. Et il fut rejeté après l'étude de son dossier. McGee n'était pas un politicien, et l'Église jouait un rôle clé dans ce domaine. McGee a reproché au Seigneur de l'avoir laissé tomber. Mais plus tard, il eut honte de son attitude et il a demandé pardon à Dieu. « Le Seigneur ne m'a pas laissé tomber », a affirmé McGee. Il savait ce qui était mieux pour moi. Il avait fait quelque chose de mieux en réserve pour moi. Plus tard, je l'ai souvent remercié pour sa réponse négative. Oui, chers amis, il n'est pas nécessaire de défoncer les portes du ciel afin que Dieu réponde à nos prières. Dieu ne dort jamais. L'accès à son trône est ouvert et il nous invite à frapper, chercher et demander. Il nous accorde ce qu'il y a de mieux pour nous. Revenons à notre texte. Luc chapitre 11, verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Avant d'aller à Dieu dans la prière, assurez-vous qu'il est votre père. Mais à tous ceux qui l'ont reçu en parlant de sa parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12. Croire et compter sur le fait que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour vous et qu'il est ressuscité pour votre justification fait de vous un enfant de Dieu. Lorsque vous placez exclusivement toute votre confiance en Christ comme votre Sauveur, vous êtes baptisé du Saint-Esprit et vous devenez membre du corps de Christ. Et, étant adopté dans le royaume de Dieu, vous pouvez aller à Dieu et lui dire « Père ». Nous ne pouvons pas imaginer un père donner à son fils une pierre au lieu de pain, ou un serpent au lieu d'un poisson. Combien plus pouvons-nous faire confiance à Dieu? Versets 12 et 13. Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jésus a invité ses disciples à demander le Saint-Esprit, mais autant qu'on puisse dire, ils ne l'ont pas fait. Plus tard, Jésus a dit, « Recevez le Saint-Esprit ». Les apôtres en avaient besoin jusqu'au jour de la Pentecôte. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu et les a baptisés dans le corps de Christ qui est formé des croyants. Ceux-ci étaient désormais en Christ. Depuis ce jour, ils furent remplis du Saint-Esprit. Tous les croyants sont baptisés dans le corps de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Versets 14 et 15. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, « C'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Puisque les pharisiens ne pouvaient pas nier les miracles de Jésus qui étaient manifestes, ils devaient proposer une explication pour ceux-ci. Alors, ils en ont trouvé une qui était blasphématoire. Ils n'ont pas nié les miracles, mais ils les ont attribués à une puissance satanique. Versets 16 à 19. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul? Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » Christ montre combien leur raisonnement est insensé et illogique. Leur explication est absurde. Verset 20. Mais, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume est venu vers eux dans la personne de Christ qui est leur roi. Versets 21 à 23. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. L'homme, c'est Satan. Le démoniaque démontrait la puissance de Satan. Mais Jésus est plus fort que celui-ci, et c'est pourquoi il a pu chasser le démon. Il le lie. Car il est venu sauver des âmes pour le royaume de son Père céleste. Versets 24 à 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et, quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va. Et il prend sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Chers amis, cette parabole décrit un homme dont le démon qui habitait en lui le quitte. L'homme croit que tout ira bien désormais. Il semble qu'il y ait eu un nettoyage dans son cœur. Le démon est sorti de l'homme, mais celui-ci n'a pas invité Christ à devenir le nouveau résident et le maître de sa vie. Le démon est donc revenu avec des amis. La simple réforme n'est pas suffisante. Même si la planète entière cessait de pécher, le nombre de chrétiens l'habitant n'augmenterait pas. Cesser de pécher ne fait pas de nous des chrétiens. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas une réforme, mais une régénération, une nouvelle vie, une métamorphose que seul Christ peut accomplir. Mes chers amis, comme nous manquons un peu de temps, nous allons lire directement les versets 37 à 40. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. » Insensé. Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? La religion n'est pas une question de rituel extérieur, mais d'une affaire de cœur entre le croyant et Dieu. Dieu nous aime, et il désire que nous l'aimions. Le psalmiste nous dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Le psaume 37, verset 4. Lorsque nous invitons Christ dans notre cœur, il le nettoie de la rapine et de la méchanceté. Versets 41 et 42. Donnez plutôt en au monde ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Les valeurs des pharisiens étaient faussées. Ici, le Seigneur Jésus ne dit pas que c'est mal de contribuer financièrement à son Église, mais que dans leur cas, c'était mal à cause de ce qu'ils avaient omis. En effet, les pharisiens s'enorgueillissaient de donner un dixième de tout à Dieu, même un dixième des fines herbes qu'ils récoltaient. Cependant, ils négligeaient de manifester l'amour de Dieu et de pratiquer sa justice envers les autres. Ils n'annonçaient ni l'amour, ni la justice de Dieu. Voyez-vous, chers amis, faire des dons à l'Église ne fait pas de nous un chrétien et ne nous obtient pas de faveur ou de privilège auprès de Dieu. Cependant, une personne qui aime le Seigneur Jésus n'hésitera pas à mettre ses biens à son service et au service des autres. Chers amis, Dieu ne s'arrête pas qu'aux gestes extérieurs de chaque individu, mais aussi au cœur, en nous laissant voir nos motifs pour lesquels ces œuvres sont faites. Dieu est prêt à verser en nous son amour, cette présence qui vient nous faire réaliser que, malheureusement, nous vivons trop souvent pour nous-mêmes, de notre être égoïste, afin que nous puissions vivre pleinement de sa vie, de sa pensée, de sa puissance, et par le fait même d'accomplir des œuvres qui plairont à notre Dieu et qui serviront vraiment notre prochain. Faire du bien aux autres est une bonne chose, mais cela ne fait pas de nous des enfants de Dieu pour autant. Seul l'Esprit de Dieu, habitant le croyant, manifeste qu'il est enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu est celui qui manifeste l'Esprit par de bonnes œuvres. Chers amis, malheureusement, le temps nous manque pour poursuivre notre lecture. Prochaine émission, Luc 12.
Oh, merci infiniment, Jean. Mon ami, as-tu demandé à Dieu de t'enseigner à prier? Peut-être que tu t'es joint à moi quand je lui ai demandé de nous enseigner à prier au début de l'émission. Et déjà, on a reçu un exaucement à une prière, puisque Dieu nous l'a enseigné par la bouche de Régent il y a quelques minutes. C'est encourageant. Déjà un exaucement à une prière sincère. Comme Régent l'a mentionné, on n'a pas eu besoin de défoncer des portes pour attirer l'attention de Dieu. on avait à peine terminé notre prière que Dieu nous exaucait. C'est pas merveilleux, ça? On a vu aussi qu'on n'a pas à réciter le Notre Père, mais que nos prières doivent être spontanées et personnelles, comme celles d'un enfant qui parle à son papa. Mais puisqu'on parle à notre Père, j'aimerais te poser une question, mon ami. Est-ce que Dieu est ton Père? Es-tu un enfant de Dieu? Sinon, je peux te dire comment le devenir. Ce n'est pas compliqué, ça ne coûte rien. Du moins, ça ne te coûte rien, puisque Jésus a tout payé à ta place, quand il a donné sa vie pour toi sur la croix. Dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, verset 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Puis au verset 14, on peut voir que la parole, c'est Jésus lui-même, puisqu'il est écrit « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alors la parole, c'est bien Jésus. Et au verset 12 et 13, il est écrit « À tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Mon ami, es-tu né de Dieu? Es-tu né de nouveau? Es-tu devenu un enfant de Dieu? Un jour, Jésus a rencontré un homme nommé Nicodème, puis il lui a dit qu'il fallait qu'un homme naisse de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Il lui a dit qu'il fallait naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Un jour, tu es né de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme. Maintenant, en tant que pécheur, tu dois naître de la volonté de Dieu. Tu dois naître de nouveau, et pour ce faire, tu dois prendre le seul moyen, et c'est Jésus qui a dit « Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Dieu veut te donner la vie éternelle. Il veut devenir ton Père, celui à qui tu peux aller quotidiennement pour lui faire part de tous tes besoins. Celui qui veut t'accueillir dans son royaume quand il sera temps que tu retournes à lui. Demande au Seigneur de te sauver, de te donner la vie éternelle. En ce moment, c'est cette prière qu'il veut exaucer. Demande-lui. Demande-lui, puis tu vas recevoir. Dis, « Seigneur, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. » Et il va le faire, et Dieu va devenir ton Père.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais savoir, j'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. À demain.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.